Oui, la menace était là. Tant de crimes, tant de boue, parmi tant de larmes et tant de bonté souffrante. Un si extraordinaire mélange de l'excellent et du pire, une humanité en raccourci, avec toutes ses tares et toutes ses luttes. C'était à se demander si, d'un coup de foudre, il n'aurait pas mieux valu balayer cette fourmilière gâtée et misérable. Et après tant de rougons terribles, après tant de macards abominables, il en naissait encore un. La vie ne craignait pas d'en créer un de plus dans le défi brave de son éternité. Elle poursuivait son œuvre, se propageait selon ses lois, indifférente aux hypothèses, en marche pour son labeur infini. Au risque de faire des monstres, il fallait bien qu'elle créât, puisque, malgré les malades et les fous qu'elle crée, elle ne se lasse pas de créer, avec l'espoir sans doute que les bien portants et les sages viendront un jour. La vie qui coule en torrent, qui continue et recommence vers l'achèvement ignoré. La vie où nous baignons, la vie aux courants infinis et contraires, toujours mouvante et immense, comme une mer sans bornes. Un élan de ferveur maternelle monta du cœur de Clotilde, heureuse de sentir la petite bouche vorace la boire sans fin. C'était une prière, une invocation, à l'enfant inconnu comme au Dieu inconnu, à l'enfant qui allait être demain, au génie qui naissait peut-être, au Messie que le prochain siècle attendait, qui tirerait les peuples de leurs doutes et de leurs souffrances. Puisque la nation était à refaire, celui-ci ne venait-il pas pour cette besogne? Il reprendrait l'expérience, relèverait les murs, rendrait une certitude aux hommes tâtonnants, bâtirait la cité de justice, où l'unique loi du travail assurerait le bonheur. Dans les temps troublés, on doit attendre les prophètes, à moins qu'il ne fût l'antéchrist, le démon dévastateur, la bête annoncée, qui purgerait la terre de l'impureté devenue trop vaste. Et la vie continuerait malgré tout. Il faudrait seulement patienter des milliers d'années encore avant que paraisse l'autre enfant inconnu, le bienfaiteur. Mais l'enfant avait épuisé le Saint Droit. Et, comme il se fâchait, Clotilde le retourna, lui donna le Saint Gauche. Puis, elle se remit à sourire, sous la caresse des petites gencives gloutonnes. Quand même, elle était l'espérance. Une mère qui allait, n'est-ce pas l'image du monde continué et sauvé? Elle s'était penchée. Elle avait rencontré ses yeux limpides, qui s'ouvraient ravis, désireux de lumière. Que disait-il, le petit être, pour qu'elle sentît battre son cœur sous le sein qu'il épuisait? Quelle bonne parole annonçait-il avec la légère succion de sa bouche? À quelle cause donnerait-il son sang lorsqu'il serait un homme, fort de tout ce lait qu'il aurait bu? Peut-être ne disait-il rien, peut-être mentait-il déjà. Et elle était si heureuse pourtant, si pleine d'une absolue confiance en lui. De nouveau, les cuivres lointains éclatèrent en fanfare. Ce devait être l'apothéose, la minute où la grand-mère Félicité, avec sa truelle d'argent, posait la première pierre du monument élevé à la gloire des Rougons. Le grand ciel bleu que réjouissaient les gaietés du dimanche était en fête. Et, dans le tiède silence, dans la paix solitaire de la salle de travail, Clotilde souriait à l'enfant, qui tétait toujours, son petit bras en l'air, tout droit, dressé comme un drapeau d'appel à la vie.